histoire de terre.
Moi, j'opte plutôt pour la première solution, qui me paraît plus, beaucoup plus raisonnable. De faire une installation qui soit progressive. Et ça, à la Chambre d'agriculture, on te déconseille absolument de faire une installation progressive.
Tout se fait à tâtons, et je change un peu d'avis tous les jours. Donc ce que je dis là maintenant, ça se trouve dans un an, je me dirais que c'était une grosse bêtise.
Bonjour Anne-Gaëlle, alors cette fois-ci dans Histoire de Terre, tu nous emmènes chez Pauline Ferrand au Salles à Jansioux-Pigerolles.
Oui, c'est ça Yann. Donc je suis allée rencontrer Pauline Ferrand, c'est... Donc une jeune femme qui vient de s'installer il y a à peine un an dans le village des Salles sur la commune de Jansioux-Pigerolles. Alors c'est le village où on était déjà allé il y a un an rencontrer Thomas Deschamps qui avait un élevage de brebis et qui est parti dans les Cévennes. Donc elle a repris un bout d'exploitation parce qu'elle a beaucoup moins de terre puisqu'elle utilise beaucoup moins de terre parce qu'elle a qu'une vingtaine de chèvres, ce sont des massifs centrales. Alors c'est une race qui n'est pas très courante, qui pourtant est bien adaptée à ici et qui a plein de couleurs magnifiques, elles ont un très joli pelage. Et donc elle a repris ce tunnel où on avait vu les brebis, il est occupé aujourd'hui par des chèvres. Elle l'a coupé en deux pour confiner un peu les chèvres dans un endroit un peu plus chaleureux. Et elle est en train de construire une fromagerie pour pouvoir produire... transformer le lait de chèvre en fromage et les vendre. Et comme c'est un tout petit troupeau, elle a juste un statut de cotisante solidaire. Donc elle vient de la ville. Et voilà, elle a eu tout un parcours comme ça qui l'a amenée à aller à la campagne. Au début, pas forcément pour s'installer en tant que paysanne, mais de fil en aiguille, elle s'est dit qu'avoir trois chèvres ou en avoir plus, finalement, c'était autant de travail. Donc autant faire en sorte de pouvoir en vivre. Ce qui l'a donc amenée à s'installer aujourd'hui. Donc elle dit, quand elle parle d'elle-même, elle parle d'une installation progressive. Donc on en entendra plus dans le reportage.
Et bien c'est parti, alors vous avez fait une histoire de terre comme d'habitude, avec une balade parmi dans l'exploitation, et puis ensuite aussi des questions sur l'agriculture aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Presque comme d'habitude, sauf que là, il faisait nuit, c'était le soir, alors que d'habitude, on se balade en journée. Et là, on s'est retrouvés à 18h, donc on a fait la visite dans la nuit à la frontale, et après, comme il pleuvait, on s'est quand même mis au chaud chez elle pour pouvoir continuer à discuter autour des questions d'agriculture.
Donc là, on se trouve au Salles, sur la commune de Jansioux-Pigerolles, c'est ça ?
Oui, c'est ça, dans le bas du village.
Dans le bas du village. Et Pauline, donc vous êtes éleveuse de chèvres.
Oui, je suis éleveuse de chèvres d'un petit troupeau d'une vingtaine de chèvres. Je viens de commencer mon activité.
D'accord, donc vous vous installez pour faire la transformation laitière ?
Oui, même la transformation fromagère. Et... Donc ça fait un an que j'ai les chèvres, mais c'est que des chevrettes. Et donc les fromages vont commencer seulement à partir du printemps. Voilà.
Donc là, les chèvres que vous avez jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont jamais été saillies. Et elles vont être saillies ou...
Elles ont été saillies là à l'automne et donc elles vont mettre bas au printemps. Donc j'ai essayé de les mettre un peu tard au bouc pour qu'elles aient le temps de grandir le plus possible. Et là normalement elles sont pleines et c'est prévu pour fin mars courant avril. Donc un peu plus tard que que les éleveurs autour de moi. Mais voilà, pour les chevrettes, c'est quand même bien d'attendre, de ne pas les mettre au bouc trop tôt.
C'était par rapport à leur âge que vous les avez mis plus tard au bouc ?
Par rapport à leur âge, mais aussi parce que j'ai l'impression que ben, pour les mises bas en février, il fait quand même super froid. Pour les petits chevreaux et tout. Et je me dis que si on peut reculer un peu dans la saison pour qu'il fasse un peu plus doux, ça peut être plus sympa. Quitte à traire plus tard à l'automne. Et bah après, je connais pas encore très bien le climat d'ici, parce que ça fait pas des années et des années que j'habite là. Mais j'imagine que c'est plus facile de que ce, ça peut être, le climat peut être plus doux en décembre pour continuer la traite et tout ça, que de faire les chevreaux en février, quoi. Donc voilà, c'est un peu... Mais tout se fait à tâtons, et je change un peu d'avis tous les jours. Donc ce que je dis là maintenant, ça se trouve, dans un an, je me dirais que c'était une grosse bêtise, et que... Voilà. Parce qu'il se trouve que les autres éleveurs le font pas. Alors, il doit quand même y avoir une raison. Bah, y a la raison quand même assez évidente que c'est chouette d'avoir du lait tôt dans la saison et d'être là sur les marchés tôt dans la saison. Ça, c'est peut-être un argument qui serait à prendre en compte, mais pour l'instant, je vais essayer de faire comme je le sens.
Et donc là, les chèvres, elles, donc vous n'avez pas le bâtiment d'habitation pour les chèvres, c'est un tunnel, c'est ça ? Oui. Là, on se trouve dans un tunnel.
Oui, on se trouve dans un magnifique tunnel de couleur verte. en fait, si on m'avait dit un jour que j'aurais un tunnel, j'aurais pas cru, j'aurais dit ah non. Mais ça s'est présenté comme ça. Parce qu'au moment d'acheter le terrain, le tunnel était déjà dessus. Avant, c'était des brebis. Et donc, c'était bien plus simple de reprendre le tunnel en l'état. Et il se trouve que j'y vois quand même pas mal d'avantages, comme par exemple l'espace. J'ai rencontré pas mal de paysans, paysannes... qui galéraient avec l'espace, qui n'ont pas de quoi stocker le foin, qui n'ont pas de quoi stocker le grain, et qui mettent dehors sous des bâches, ou qui achètent au fur et à mesure. Donc là, c'est quand même un gros avantage que tout est sur place, et je peux m'étaler sans compter. Parce que le tunnel est très grand, quoi. Pas par rapport au nombre de chèvres. Donc avant, il était rempli de brebis, avec un couloir de râtelier au milieu et rempli de brebis. Et moi, j'ai fait le choix de le couper en deux pour avoir un côté chèvre et un côté stockage, foin, grain, outils, chat, chien. Voilà. Et essayer de calfeutrer un peu le côté chèvre parce qu'elles sont quand même sensibles au courant d'air et tout ça. Donc, comme c'est pas isolé, et ben, essayer de garder le maximum de chaleur pour elle.
Alors, ce qu'on peut juste raconter là, pour la petite histoire, c'est s'il y a des auditeurs fidèles de Histoire de Terre, on se trouve au même endroit où était Thomas Deschamps, qui était éleveur de brebis et qui partit s'installer dans les Cévennes. Donc c'est cet endroit-là que vous avez repris.
Oui, c'est ça. Donc lui, il avait des brebis donc à viande. Au départ, je me projetais pas du tout pour reprendre ici parce que dans mon idée, c'était pour un espace pour 300 brebis et pour 100 hectares de terrain. Et j'ai jamais eu un projet à cette échelle-là, surtout quand laitier. On a souvent un troupeau beaucoup plus petit. Mais au fur et à mesure, comme on était voisins, j'habitais déjà dans le village, on en a parlé et il s'est trouvé qu'en fait, il y avait de la place. Enfin, que j'avais autant ma place qu'un plus gros éleveur ou une plus grosse éleveuse. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai repris la ferme, mais pas tous les hectares. J'ai repris le bâtiment et une partie seulement, une toute petite partie des terrains en location.
Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de terres en location sur cette exploitation.
Oui, il y avait, je crois, 150 hectares avec beaucoup de sectionaux aussi. Donc, tout cela, donc ils ne sont pas partis à l'abandon parce qu'il y a eu aussi ce projet de créer un groupement pastoral qui s'est créé. Ils sont venus cet été. Donc, les terrains continuent à être pâturés 5 mois dans l'année par des brebis. Et donc moi, je fais mon petit bonhomme de chemin avec les chèvres. Il se trouve que je profite de tous ces hectares le reste de l'année, parce que soit je les traverse, soit les chèvres y pâturent un peu aussi en passant, mais comme j'ai que 20 chèvres, ça reste anecdotique, quoi. Ça va pas manger toute l'herbe pour les brebis.
Ouais. D'accord. On va voir si les chèvres alors.
Oui.
Ah, ça sent la bique.
On est sur la bonne voie. Hop, je referme. Alors voilà, la maison des biques. Alors, c'est le soir. Ça roupille par-ci, par-là. Donc oui, j'avoue, il y en a deux à l'extérieur de l'emplacement prévu. Mais c'est les rebelles.
Ah c'est oui, les... c'est qu'elle passe toute seule par-dessus.
Oui, oui, c'est pas un choix. Mais bon, je m'y fais. Et elles s'y font très bien, parce que du coup, elles ont toute la boule de foin qui est sortie pour elles. Elles peuvent sauter dessus, elles peuvent faire caca dans les râteliers, donc elles sont ravies. Donc voilà, parce que les chèvres... On peut voir sur les barrières que j'ai mis des rehausses parce que j'ai récupéré des barrières de Thomas, donc l'éleveur de brebis. Et ça s'est avéré pas suffisant pour les chèvres. Donc j'ai mis des rehausses et malgré les rehausses, il y en a qui continuent à passer, à franchir. Elle, par exemple, elle saute sur l'abreuvoir pour sortir. Donc à moins de déplacer l'abreuvoir, je peux pas l'empêcher de faire ça. Parce que je pourrais mettre des barrières à 2 mètres de haut, avec l'abreuvoir, elle arriverait toujours à sauter. Voilà.
Qu'est-ce que c'est comme race ?
Alors, c'est des massifs centrales, pas purs, mais majorité massif central. Donc, c'est une race qu'on trouve plus trop, enfin, qui tend à revenir un peu. Mais quand même, je crois que 90% des effectifs caprins en France, c'est uniquement deux races, qui sont l'alpine et la sanenne. Et du coup, voilà, donc le massif central, ça revient un peu dans le massif central. Il y a une asso qui essaye de préserver un peu la race et tout ça, mais ça reste une race à faible effectif.
Et c'est pourquoi ce choix d'avoir pris des massifs centrales ?
Alors c'est le choix de pas faire comme les autres, de pas faire comme on me dit de faire. Non, c'est le choix que c'est censé être une race plus rustique, donc mieux adaptée à ici. Donc nous, on est quand même dans le massif central, donc c'est censé être adapté. Aux régions montagneuses et humides. Et du coup, pour moi, c'était un critère hyper important dans le sens où j'ai pas envie de passer mon temps à traiter mes chèvres, chimiquement ou pas chimiquement d'ailleurs, mais en tout cas à intervenir. Donc c'est un critère important que ce soit des animaux qui résistent au froid, à l'humidité et tout ça. Et c'est aussi qu'elles sont beaucoup plus jolies. Et, non, mais c'est beaucoup plus varié, quoi, dans les couleurs, dans les robes, dans la longueur des poils. Là, on peut voir qu'elle est grise à poils courts, mais derrière, on en a une marron et blanche à crête blonde. Enfin, voilà, c'est plus varié. Et, enfin, moi, en tout cas, je pense qu'au quotidien... Ça me fait
plaisir à les regarder.
Ça, oui, voilà, ça me fait plus plaisir que d'avoir un troupeau trop uniforme. Après, voilà, beaucoup d'éleveurs choisissent les deux autres races que j'ai évoquées tout à l'heure parce que elles produisent plus. Donc, pareil, peut-être que dans 5 ans, je verrai que décidément, les massifs centrales, ça produit pas et je ferai autrement, mais...
Est-ce que la race de la chèvre, ça peut jouer sur le goût du lait et donc du fromage, ou est-ce que ça n'a pas d'incidence, c'est seulement lié à la nourriture?
La race de la chèvre, ça va peut-être jouer plus sur la qualité du lait, plus que sur le goût. Le goût en lui-même, je ne sais pas, mais sur les caractéristiques du lait, donc le taux de matière grasse et tout ça, qui fait que, oui, on dit aussi qu'elles doivent avoir un rendement fromager qui est plus élevé, donc moins de lait, mais un meilleur rendement fromager. C'est-à-dire qu'avec un litre de lait, on va faire un plus gros fromage qu'avec un litre de lait des autres races. Donc après, il y a toutes les caractéristiques qui sont écrites dans les bouquins et qu'on entend un peu partout. Et il y a quand même le terrain. Moi, on m'a aussi dit qu'un troupeau d'alpine, si elle est habituée à vivre sur le plateau de 1000 vaches, et ben, elle sera aussi rustique qu'une massif centrale. Donc, voilà.
À voir, à tester, quoi.
Oui, voilà, à tester. En tout cas, moi, j'aime bien cette race. Voilà. J'aime bien cette race. J'étais dans pas mal de fermes où il y avait ce genre de chèvres et elles me plaisent bien. C'est pas les plus calmes, je crois. Elles sont quand même hyper bagarreuses. Et ça peut être aussi un truc fatigant, quoi. Parce que contrairement aux brebis, ça va vraiment, vraiment se bagarrer. Pas que pour jouer, les chèvres. Donc, quitte à se faire vraiment mal, quoi.
Ah ouais.
Donc moi, ça ne m'est pas encore arrivé qu'elle se blesse, mais il y a une vraie hiérarchie et... C'est un truc, je pense, à l'usure qui peut être fatigant. Des fois, juste, on va se balader, là, avec les chèvres, et puis tout est tranquille, tout est beau, et bim. Elle se rentre dedans, elle se fout des coups de corne, elle se saute dessus, elle se fonce dedans. Et c'est pas pour rigoler. Donc.
Parce que comment ça se passe, vous, elles sont en parcours libre pendant la journée, vous les gardez, elles sont dans des parcs?
Alors, cette année, donc là, j'ai l'exemple sur une année, ça dépendait des saisons. Donc là, par exemple...
Vous allez nous observer.
Là, par exemple, c'est l'hiver. On va dire que les parcs que j'ai, c'est quasiment que de l'herbe. Donc, il n'y a plus beaucoup d'herbe. Donc, elles refusent catégoriquement de rester dans les parcs. Donc, elles sortent. Du coup, elles sont en liberté, mais c'est de la liberté surveillée, on va dire. Que ça, c'est... Il y a une cloche, là, dans le troupeau. On ne l'entend pas, parce que celle qui la porte est très calme. Enfin, elle est allongée, là. Mais donc voilà, je les surveille au son de la cloche et je vais voir de temps en temps la journée. Et en général, ça, quelle que soit la saison, j'essaye de les garder 1 heure le matin, 2 heures le soir, un truc comme ça. Parce que c'est vraiment un moment en fait où on se balade et je suis avec elles et du coup elles sont plus sereines que quand elles sont en liberté. Et donc là c'est la nourriture à volonté, elles peuvent vraiment aller partout et je peux les emmener dans des endroits un peu plus risqués comme les bords de route, les abords des jardins et tout ça. Et donc là c'est vraiment le top du top de ce qu'elles aiment. Pour manger. Et voilà, et donc je sais pas, le fait que je sois là, enfin moi ou quelqu'un d'autre, hein, mais que quelqu'un les garde, et ben elles mangent hyper sereinement. Que en liberté, ben ça m'est déjà arrivé que elles redéboulent en courant au tunnel parce que il y a une mouche qui est passée et ça leur a fait peur. Ça arrive pas du tout quand il y a quelqu'un avec elles. Et que je me dis que seules, en fait, elles sont beaucoup plus sur le qui-vive, parce qu'il y a quand même un peu de passage, que ce soit une voiture par-ci par-là, des chasseurs, d'autres animaux sauvages. Donc voilà. Et sinon, donc en été, printemps-été, j'alterne entre les parcs. Là, elles veulent bien y rester parce que l'herbe est bonne. Et la garde. C'est un truc auquel je tiens parce que c'est un moment vraiment dans la journée où que j'apprécie beaucoup et que je vois que la chèvre mange le fil. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc moi je l'apprécie beaucoup et je vois que les chèvres en profitent bien. Et du coup, garder, c'est un truc que j'aimerais continuer à faire même quand je serai complètement débordée par le travail. J'aimerais bien ne pas sacrifier ça parce que c'est des moments hyper chouettes. Et bénéfiques pour les chèvres, je pense.
Donc voilà, le tunnel pour l'habitation des chèvres, pour la chèvrerie, on va parler correctement.
Oui,
chèvrerie. Local de stockage. Et il y a une fromagerie en construction, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc l'année dernière, j'en avais pas parce que j'avais pas de lait. Donc voilà, là c'est le chantier qui devait être cet été, mais qui est cet hiver. Enfin, l'été dernier. Ça devrait être prêt pour dans 2 mois. C'est un peu le stress, enfin le point sensible du moment, quoi, parce que il faut pas se planter de fromagerie. J'ai pas l'intention d'en construire tous les ans, quoi. Donc c'est là où il faut pas se planter, où il faut prendre des choix, il faut faire des gros chèques, et du coup c'est un peu stressant. Là c'est pas la phase la plus sereine que j'ai traversée, mais en même temps c'est stimulant parce que ça commence à ressembler à quelque chose et je peux commencer à me projeter dedans. C'est quand même un endroit où je vais passer pas mal de temps. Donc,
elle va ressembler à quoi, à cette fromagerie ?
Alors pour l'instant, elle ressemble à un gros cube blanc avec des portes et des fenêtres et de 30 mètres carrés. Et à, on va dire, moyen terme, elle sera couverte et bardée en bois pour déjà la protéger parce que c'est bien que ce sera toujours une durée de vie plus longue si c'est protégé, et c'est quand même plus joli le bois que la tôle laquée. Voilà, donc 30 mètres carrés avec 1, 2, 3, 4 pièces. Une porte d'entrée, une porte de sortie. Et voilà, et ça devrait être largement assez grand pour la quantité de lait que je vais transformer. Mais je me dis qu'il vaut mieux faire un peu trop grand que trop petit, parce que peut-être qu'un jour, enfin peut-être que j'augmenterai les chèvres, peut-être que je m'associerai, peut-être que... On ne sait pas. Et du coup, c'était pas beaucoup plus compliqué de faire plus grand. J'étais éblouie. De faire un peu grand que... C'est comme les chèvres. C'est pas beaucoup plus de travail d'avoir un troupeau de 20 chèvres. 20 chèvres, ça reste pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup plus de travail d'avoir un troupeau de 20 chèvres que d'avoir 3 chèvres dans un coin du jardin. Parce qu'à un moment, moi, au tout début, je suis pas partie avec l'idée de me dire je vais m'installer en agriculture. Ça, c'est plutôt récent. Mais ça fait quelques temps que j'ai envie d'avoir des chèvres, que j'ai envie de faire du jardin, que j'ai envie d'avoir d'autres animaux. Donc voilà, il y a l'idée d'avoir 3 chèvres. Et après, tu te dis, bah oui, mais en fait, 3 chèvres, il faut quand même être là tous les jours, il faut quand même se lever tous les matins, et il faut quand même faire le fromage tous les jours. Et du coup, d'en avoir plus, et ben, ça permet de se dire, bah, au lieu juste d'avoir du fromage pour moi et de les partager avec mes amis, j'ai eu un peu plus de boulot. Non, ouais. J'ai un peu plus de boulot et du coup, ça peut devenir une source de revenus aussi. Et je trouve que la limite est pas très loin. Parce que bon, bien sûr, quand on en vit, il y a la vente qui prend... Il faut avoir une fromagerie, donc c'est de l'investissement. Mais au niveau de la charge de travail, ça se rejoint presque. Pas totalement, parce que forcément, c'est plus long de traire 20 chèvres que d'en traire 3. Mais voilà, du coup, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas avoir un vrai troupeau ?
Vous écoutez Histoire de Terre sur Radio Vassivière et vous êtes au SAL, sur la commune de Jean-Sioux-Pigerolles, avec Pauline Ferrand, éleveuse de chèvres.
Donc des algéco posés sur des plots béton.
Ouais, il n'y a pas de dalles, c'est uniquement des plots. Là, on est dans le sas d'entrée. Ça résonne, hein, parce que c'est vide. On est dans le sas d'entrée. Là, on arrive. Ici, il va y avoir la laverie. Bon, c'est un bien grand mot pour dire qu'il y aura une plonge. Mais une grande plonge, quoi. Voilà, parce que les joies de la fromagerie, c'est la vaisselle aussi.
Ouais.
Là, donc, le côté, ça communique directement avec la salle de fabrication, où le lait va cailler, où les fromages vont s'égoutter. Là, on arrive dans le sas de sortie, pourquoi pas salle de vente, qui communique avec un haloir pour affiner les fromages.
D'accord. Un haloir, ça s'appelle.
Un haloir, oui.
C'est une pièce qu'on peut mettre à une température ou un taux d'humidité, qu'on contrôle et...
Oui, voilà, il va y avoir un groupe, un évaporateur, tout ça, qui va permettre d'affiner les fromages dans des bonnes conditions. Parce que, bon, moi, j'ai pas de cave naturelle. Et en plus que des fois, les caves naturelles, ça peut présenter trop d'humidité qui fait que ça développe des moisissures pas voulues sur les fromages et tout ça. Donc là, l'avantage du haloir, c'est que c'est à peu près...
Maîtrisable.
C'est maîtrisable. Après, c'est la technologie qui l'est moins, quoi. Du coup, je suis dépendante de l'électricité et de ce que le matériel... fonctionne correctement, qu'une cave, a priori, elle fonctionne. si elle est bien, elle fonctionne bien naturellement. Ouais. Donc ça, pareil, avant, je me disais que jamais j'aurais un haloir électrique, et que du coup, j'en ai un. Enfin, j'en ai un. Je ne l'ai pas encore, mais il est en cours. Et voilà, ça se sortit donc avec une deuxième porte.
Qui donne dehors. D'accord, donc il y a un sens de circulation à respecter. J'imagine que c'est des histoires de normes.
Oui, c'est des histoires de marche en avant. Donc,
marche en avant.
La marche en avant. Le lait rentre par la porte d'entrée, les fromages sortent par la porte de sortie. C'est le lait, en fait, qui peut pas reculer. Le lait, les fromages...
peut pas revenir en arrière.
Voilà, parce que le lait, il rentre, il est dans un seau, par exemple, qui est sale, et on peut pas ressortir par cet endroit qui est sale, entre guillemets sale. Voilà, c'est sûr que ça paraît un peu étrange, mais sur les constructions neuves, il n'y a pas de tolérance pour faire autrement, je crois. Que sur des constructions anciennes, quand les fromageries existent depuis des années, on permet encore qu'il n'y ait qu'une porte... une porte qui fasse entrée-sortie. Mm-hmm. Mais sur les constructions neuves, c'est plus difficile de le justifier. Parce que si tu fais du neuf, t'es censé faire comme il faut. Mm. Donc, on va essayer de faire comme il faut.
Histoire de terre.
Donc là, on s'est mis un peu au sec parce que commençait à pleuvoir. Et est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu comment sont arrivées ces histoires d'agriculture dans votre vie ? Est-ce que vous êtes fille de paysan ?
Non. non, je ne suis pas du tout fille de paysan. C'est arrivé... progressivement. On va dire que moi j'ai toujours vécu en ville et voilà, je travaillais dans une institution avec des enfants handicapés et je crois que c'est venu à peu près en même temps où j'en ai eu un peu marre de mon boulot. Parce que je trouvais que c'était trop... Les enfants étaient tout le temps à l'intérieur, on sortait peu, et je trouvais que c'était hyper dommage pour eux de juste pas être plus en contact avec la nature, que je trouvais que pour eux, ce serait un truc hyper enrichissant. Plus que n'importe quel jeu en intérieur... Et donc, et à un moment, je me suis dit que, en fait, oui, ce serait enrichissant pour eux, mais que ce serait aussi enrichissant pour moi. Et que peut-être que je projetais sur eux ce que moi-même, j'avais besoin et envie. Et du coup, il y a eu ça qui a fait que, voilà, j'ai commencé à en avoir marre d'être en ville. Et au niveau juste de, ouais, du mode de vie, du mode de consommation, ça m'allait plus. Donc à un moment, on essaye de faire des efforts, des machins, mais ça trouve très vite ses limites en ville. Du coup, voilà, j'avais juste envie de vivre dehors, mieux manger, être moins dépendante de tout le monde. Je connaissais pas grand chose à l'agriculture. Je savais bon que j'aimais bien les chèvres, que sûrement que j'aimerais bien le jardin. Mais ça c'est plus voilà, c'est parti d'envie comme ça et d'un peu de déclic par rapport à mon boulot et par rapport à mon mode de vie. Et de là, je suis partie faire du woofing. Donc le woofing c'est une manière de voyager et d'apprendre l'agriculture. Donc on va dans une ferme et on est accueilli par les paysans et paysannes de la ferme et on vit avec eux, on donne des coups de main si on peut leur donner des coups de main. Le plus souvent, c'est plutôt qu'on apprend des trucs et les coups de main sont pas faciles à donner. Parce qu'on les retarde plus qu'autre chose, en général. Parce qu'il faut tout expliquer et tout. Mais du coup, c'est un truc hyper enrichissant où ça n'a pas le côté rigide d'un stage où c'est pendant une formation, pendant des durées précises. Là, c'est vraiment quand on a envie. Enfin, la durée qu'on a venue avec les gens. Et du coup, ça m'a bien plu et j'en ai fait de plus en plus. Et donc, j'ai fini par... Enfin, j'en ai fait genre deux pendant mes vacances. Et après, je me suis dit, ben, je laisse mon job et mon appart et je vais faire du woofing. Donc là, je les ai enchaînés pendant un an et demi. Et je suis arrivée ici.
Par le woofing.
Oui. Par le woofing. Et donc, plus pour faire du jardin, parce que de fil en aiguille, je voyais bien que ça me plaisait bien le jardin et... J'avais toujours en tête les chèvres, mais bon, j'avais envie de...
Ah oui, les chèvres, c'était quand même déjà dans votre tête avant,
oui,
en
bah,
commençant, quoi.
J'ai ciblé tous mes woofing sur les chèvres et le jardin. Et en me disant que j'étais ouverte à d'autres trucs. Et il se trouve que j'ai fait plein de woofing en vache, laitière, et que ça m'a bien plu aussi. Et... Donc j'étais pas fermée non plus. Et voilà, donc je suis arrivée ici parce que je connaissais pas trop ce coin-là de France. Parce que du coup, dans mes woofings, j'essayais d'aller là où je connaissais pas. Et donc la Creuse, je connaissais pas trop. Même pas du tout. J'étais venue en vacances au lac de Vassivière, mais il y a longtemps, longtemps. Donc voilà, le maraîchage, la Creuse, je suis arrivée là, et ça m'a bien plu, donc je suis revenue, et j'ai fini par rester.
Et c'est là que cette histoire de chèvre est revenue, et que vous êtes dit, ah, ça pourrait être le bon moment.
Oui, il y a aussi que j'étais un peu fatiguée de faire du woofing, quoi, c'était... À chaque fois, il faut s'adapter à un nouvel endroit, nouvelle famille, nouvelle personne. Donc, refaire son sac, défaire son sac, refaire son sac. Donc, voilà, je trouvais que j'en avais assez fait et que je me sentais quand même prête à me lancer. Parce que, à un moment, c'est aussi plus valorisant de faire les trucs... pour soi et pas toujours pour les autres. Enfin, c'est pas pour les autres, parce que bien sûr, on apprend, mais voilà, sur la fin, j'avais plus ce sentiment-là et j'avais besoin d'autres choses. Donc, je me disais que j'étais prête. Et voilà, l'opportunité du terrain, la région qui me plaît bien. Et je me suis lancée.
Donc pas de formation agricole.
Non.
Et au niveau du statut, du coup, comment ça se passe cette installation? C'est pas une installation conventionnelle, on va dire?
Ouais, mais c'est pas plus compliqué. En fait, n'importe qui peut être agriculteur, agricultrice du jour au lendemain. Je pense que tant qu'on a quelque chose à déclarer, que ce soit des bêtes, du terrain... et qu'on paye ses cotisations, on a le droit d'être agriculteur. Donc voilà, ça m'ouvre, par exemple, vu que j'ai pas de formation, ça m'ouvre pas les portes de différentes aides, par exemple. Mais sinon, voilà, je me suis installée un peu comme n'importe qui. Où, j'ai déclaré mon activité, et à partir de là, j'ai un numéro d'élevage, un numéro sirette et c'est parti. Donc il se trouve que vu que j'ai un petit cheptel et pas beaucoup de surface, je suis cotisante solidaire. Mais ça, ça c'est juste une question
de statut fiscal ou...
Oui, enfin de statut en tout cas, mais qui fait que c'est pas parce que je suis pas fille de paysan que j'ai ce statut-là. Ça, c'est vraiment lié à l'activité en elle-même.
Donc, le nombre d'hectares et la taille du cheptel.
Oui, donc je suis cotisante de solidarité. Et donc, en fait, c'est un statut, mais un statut qui ouvre aucun droit et qui permet pas, qui fait pas cotiser pour la retraite ni pour la sécu.
Qui donne le droit de commercialiser.
Oui, mais en fait, à partir du moment où on est inscrit, on a le droit de commercialiser. C'est pas le fait d'être cotisante solidaire qui fait que j'ai le droit. C'est pas la condition. Mais oui, en tant que cotisante solidaire, j'ai le droit de commercialiser. Mais c'est un statut un peu étrange où en fait on considère que t'es trop petit pour être une vraie exploitation agricole. Et du coup, on considère que tu dois travailler à côté et cotiser autrement en fait. Du coup. Mais moi, je travaille pas à côté. Mais du coup, cotisation solidaire, c'est cumulable avec le RSA et la CMU. Ce qui fait que bah, moi, dans un premier temps, voire sur quelques années, je me dis que je peux profiter de ça. Donc le RSA complément d'activité et la CMU comme sécurité sociale. Et ça me va bien. Parce que
ça laisse la possibilité de se tester.
Oui, et de pas commencer trop gros, parce que bon, ils disent que c'est pas une vraie exploitation agricole quand on est cotisante solidaire, sauf que moi je trouve que c'est déjà pas mal. 19 chèvres, bon, c'est sûr que par rapport à plein d'éleveurs éleveuses, c'est un tout petit cheptel, mais en même temps, pour l'instant. J'essaye d'avoir une conduite d'élevage qui est le moins de charges possible. Donc, essayer d'avoir, en fait, la logique, ce serait pas trop de charges, pas trop de revenus, petit salaire. Parce qu'il y a aussi la logique énorme charge, énorme revenu et petit salaire, quand même. Parce que énorme charge, énorme revenu, bah, il ne reste plus rien. Donc moi, j'opte plutôt pour la première solution, qui me paraît beaucoup plus raisonnable. de faire ouais, une installation qui soit progressive. Et ça, à la Chambre d'agriculture, on te déconseille absolument de faire une installation progressive. Et je trouve ça hyper dommage, parce que du coup, les gens, ils achètent des fermes hors de prix, ils s'endettent toute leur vie et du coup ils ont aucune marge de manœuvre. Forcément, une fois qu'ils ont investi, il faut qu'ils produisent. Et s'il faut qu'ils produisent, ben il faut qu'ils achètent des machines, il faut qu'ils se mécanisent à fond, il faut qu'ils boostent leurs bêtes. Donc ça le fait rentrer dans une logique qui moi me conviendrait pas. Enfin, je préférerais ne pas faire d'élevage plutôt que de faire comme ça. Donc voilà, l'installation progressive, c'est censé être pas bien parce que je sais pas pourquoi. Enfin, cette logique-là, je la comprends pour la fromagerie, par exemple. C'est sûr, j'en parlais tout à l'heure. Faire une petite fromagerie parce que j'ai pas beaucoup de chèvres et après me retrouver bloquée. C'est sûr que c'est idiot, mais je trouve qu'il y a cette logique-là, je la comprends, mais je comprends pas la logique. Il faut commencer avec 40 chèvres et des très bonnes laitières, et il faut leur donner ceci, cela à manger, et il va falloir se mécaniser. Voilà, je trouve qu'il y a quand même une marche entre les deux. Donc voilà, j'ai opté pour cette logique-là de... Pareil, si mes chèvres se révèlent être des pas très grandes productrices de lait, par rapport à ce que peuvent représenter les lactations dans d'autres élevages, et ben je me dis c'est pas grave. Si mes chèvres me coûtent pas l'argent, ou le moins possible, et ben en fait c'est pas grave qu'elles produisent pas trop. Parce que c'est sûr qu'une chèvre qui nous coûte super cher parce qu'on la nourrit, on achète toute son alimentation, tout ça, il faut absolument qu'elle produise. Et sinon, elle part à l'abattoir. Alors que moi, j'ai quand même ce truc de me dire, ben, si je veux plus de lait, ben, j'en prends un peu plus. Et vu qu'elles me coûtent pas très cher, mes chèvres, et ben, c'est pas grave. Et je suis un peu plus leur rythme naturel qui est de pas de manger des bouchons d'aliments, mais d'aller manger des ronces, l'écorce de houx et des feuilles de chêne. Donc, voilà, encore une fois, rendez-vous dans 5 ans pour savoir si j'ai toujours cette opinion-là.
Mais est-ce que justement, c'est pas les choix qui sont encouragés par la Chambre d'agriculture, est-ce que c'est pas en fonction d'une viabilité économique et d'un salaire attendu ?
Non, c'est pas ça. Enfin, sûrement qu'ils le pensent, mais moi je pense que c'est la logique globale pour tout qui est il faut de la croissance, il faut investir. Mais voilà, moi je pense que c'est ça. Parce que la viabilité économique, quand on s'achète tous les 6 mois un tracteur à 50 000 euros, je vois pas comment on est viable, mais avec des emprunts jusqu'au cou, et on est bloqué. Et c'est comme ça qu'il y a plein de paysans qui se suicident, parce que juste ils en peuvent plus. Et puis la viabilité économique, ils ont pas beaucoup d'arguments pour la prouver, parce que en ce moment et très régulièrement, tous les agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs conventionnels sont dans la rue parce qu'ils gagnent pas du tout leur vie. Donc c'est une viabilité économique qui peut être basée sur des subventions, des investissements, et voilà, et beaucoup sur les aides. Et c'est pas ce que la majorité des paysans veulent. Ce qu'ils veulent, c'est pas avoir encore plus d'aides. Ils veulent que leur travail soit valorisé. Et que... Parce que je pense que tous les éleveurs éleveuses aiment leur travail et attendent pas juste que l'argent tombe du ciel et que ce qu'ils produisent soit vendu pour une bouchée de pain, parce que c'est dicté par la loi du marché. Donc... Non, je pense que la Chambre d'agriculture a pas trop d'arguments en sa faveur en ce moment. En général et en particulier en ce moment.
Et alors concrètement, sur quand l'activité va démarrer, vous allez commencer à faire du fromage, comment vous comptez commercialiser ? Vous êtes toute seule à vous occuper de à la fois l'élevage, la transformation, la commercialisation.
Alors, sur le papier, oui, je suis toute seule. Après, j'ai la chance d'avoir beaucoup de coups de main. Et donc je suis pas vraiment toute seule. Et du coup, pour la commercialisation, je pense vendre sur les marchés autour d'ici. Et s'il y a besoin, si j'ai trop de fromage, parce qu'il y a deux marchés que je pense faire, si j'ai plus de fromage que de demande sur ces marchés-là, et ben j'aurai aussi la possibilité de vendre dans des écoles ou des restaurants, parce que ça, ça devient un peu une demande de se fournir localement. Je sais que la Comcom essaye de développer un peu ce truc-là, de faire se rencontrer en fait les agriculteurs et les collectivités. Et donc voilà, il y a cette demande là au niveau local. Donc après, bon, des écoles, il y en a pas des milliards, mais ça peut aller vers Feltin, Aubusson, pour ce genre de demande.
Et je pense que les jours de marché, j'aurais besoin d'être remplacée. Et ça, je peux compter sur les coups de main sur place pour que ça se fasse comme ça. Et si vraiment je suis toute seule les jours de marché, les chèvres sortiront un peu moins ce jour-là. Et tant pis pour elles.
Et on y trouvera quoi sur votre étal de marché? Des crottins de chèvres, de la tome?
Alors dans un premier temps, surtout des lactiques, donc ce que vous appelez des crottins, donc c'est le terme générique, c'est les lactiques, donc voilà, les petits fromages de chèvre plus ou moins affinés. Voilà, donc majoritairement ça, parce que avec l'installation de la fromagerie, pour l'affinage... C'est le haloir qu'on a vu tout à l'heure, c'est plus adapté pour les lactiques. Que la tome, il lui faudrait d'autres conditions d'affinage. Donc, je vais sûrement en faire un peu, mais ce sera pas une grosse partie de la production. Et sinon, fromage frais aromatisé. Donc, je pense faire ail ciboulette. Huile d'olive, cumin, donc les pots de fromage frais à tartiner. Voilà. Et donc, je veux pas trop me disperser, parce que c'est vrai que j'aurais envie de faire de la tome, des yaourts et tout, mais là, ça demande quand même un peu plus d'équipement, et je préfère bien le faire quand j'aurai l'équipement, si je l'ai un jour, que de partir trop dans tous les sens. Ah oui, et aussi, je pense essayer de valoriser la viande de chevreau, ce qui se fait pas beaucoup en élevage caprin. Donc ça, pareil. Et cette année, je vais commencer en gardant seulement quelques chevreaux pour les vendre pour la viande. Et progressivement, si je vois qu'il y a de la demande, si je vois que c'est faisable, j'aimerais vendre la viande de chevreau en direct et pas les faire tous partir à une semaine pour qu'ils aillent à l'engraissement. Donc voilà, une petite partie très saisonnière de viande de chevreau ou après de chèvre de réforme. Parce qu'il y a un nouvel abattoir qui va se faire à Bourganeuf. Qui s'appelle le pôle viande. Et c'est un abattoir où on peut... Enfin, en tant que paysan, on peut y acheter des parts. Et donc en faire vraiment partie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... comment dire c'est un abattoir où... voilà,
les mutualisé, un outil mutualisé entre paysans, c'est ça?
Oui, mais qui a quand même des salariés. Donc le fait d'acheter des... départ fait que ça va dans l'investissement et chaque année il y a on paye le fonctionnement en fonction du nombre de parts qu'on a acheté mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça brise un peu la glace qu'il peut y avoir d'habitude dans les abattoirs classiques où là n'importe quel paysan ou paysanne peut entrer peut entrer dans l'abattoir, peut y faire des choses. Parce que pareil, il y aura un labo de transformation où on peut venir transformer nous-mêmes. De l'espace de stockage pour, si on ne vend pas la viande tout de suite, avoir un espace où on stocke la viande sur place. On peut venir conditionner soi-même. Et voilà, ça ne devient plus le truc où on y va les yeux fermés. On balance les animaux et on s'en va. Donc ça implique un peu plus l'agriculteur. Donc ça c'est un concept qui me plaît bien et je voudrais profiter de ça pour valoriser la viande de chevreau.
Et en plus, le fonctionnement, c'est que je me trompe pas, une personne égale une voix. Et non pas une part égale une voix. Donc moi, par exemple, je vais prendre une seule part, mais j'aurai la même voix que quelqu'un qui en prendra 15. Mmh. Donc ça, je trouve ça chouette. Que pour le coup, il y ait de la place... Il y a de la place pour tout le monde.
Vous venez d'entendre Pauline Ferrand, éleveuse de chèvres aux Salles sur la commune de Gensioux-Pigerolles. C'était donc Histoire de Terre, une émission diffusée une semaine sur deux, le mercredi à 19h et le samedi à 11h. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les précédentes sur radiovassivière.com.